Vous voyez un M.
1000.
Vous voyez un C avec en dessous trois petits trucs. 1300. Et puis un L, 1350. Et puis un I, 1351. 1351. Incipit de mensis martii. Début du mois de mars 1351. Alors là, je lui dis, mais ça sort d'où vos papiers là? Alors elle m'en sort d'autres. Alors elle m'en sort une petite chiasse, il y en avait 14. Un deuxième. Un très beau lion, d'azur au lion d'or, avec ici une lettre que vous identifiez peut-être, qui ressemble à un A, mais en fait c'est un C. Donc, un extrait d'un C d'or. Avec des inscriptions, bon, pas très très lisibles, il faut agrandir. Et puis, le premier jour, je n'ai pas réussi à les lire. Après, avec un peu d'habitude, on déchiffre, c'est du latin. Liber prosecutionum mei bomboloni quandam bomboloni notarii maleficiorum domini potestatis in porta sancti petri. Alors, on est rue Saint-Pierre, là, c'est la porte Saint-Pierre. À part ça, moi, j'étais à peu près dans cet état d'esprit-là. Tintin découvrant les premiers parchemins du secret de la licorne, hein, franchement. Alors, le troisième était nettement plus explicite. Le voilà, je crois qu'il y a un agrandissement. Voilà. Avec une date facilement lisible, la même pour le commun des mortels, on va dire. 1490. Un truc un peu énigmatique en haut, Suzanne. P.S. Suzanne. Bon, mais alors ce qui était très intéressant, c'était hop, ça, Civitatis Perusiae. Bon, j'avais des petits restes de latin, Civitatis, la cité, la ville, Perusiae, Perusiae, Pérouse, Pérouse, en Italie. Donc ce document semblait provenir de Pérouse et daté de 1490. Alors entre 1351 et 1490, donc ma belle-mère me sort 14 parchemins du Moyen-Âge. De son placard à balai, où ils étaient là depuis 30 ans. Alors là, j'étais un peu sié quand même. Ensuite, elle m'en sort un autre, un très beau taureau furieux, avec un Liber Inquisitum Porte Solis. Solis, le soleil, bon, ok. On verra après tout ce que ça veut dire. Un très beau cochon, sanglier, cochon. Oh là, la cantine cochon, c'est plutôt un cochon. Un autre lion avec des inscriptions, là aussi pas forcément très lisible au début, hein, je peux vous dire. Il m'a fallu un petit peu de temps pour déchiffrer tout ça. Voilà, et donc il y en avait 14. Alors là, je me dis, mais ça sort d'où? Elle me dit, ben ça vient de chez un cousin de mon mari. Voilà. Et du coup. Bon, c'était des vieux parchemins, ça c'est sûr. Et il se trouve que j'avais un ami à Poitiers qui était professeur d'histoire, je ne savais pas trop de quoi, mais d'histoire. Donc je les scanne, je lui envoie, et aussitôt il me répond par mail, mais tu as dans les mains des parchemins médiévaux, d'où tu sors ça, c'est incroyable. Je fais appel à un collègue spécialiste, et en fait, je suis tombé sans le savoir sur les deux spécialistes qu'il me fallait. Le premier, c'est Laurent Ablot, qui est spécialiste d'héraldique, successeur de Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, ça vous dit peut-être quelque chose, écrit de très nombreux ouvrages sur l'héraldique, sur les animaux, la symbolique des couleurs dans l'héraldique. Donc c'est son successeur, donc je ne peux pas tomber mieux. Mais ça, je ne savais même pas. Et puis, il a fait appel à un de ses collègues, Matteo Ferrari, qui est donc un Italien, qui travaille à Paris avec lui, et qui, tout en vivant à Namur, en Belgique. Donc voilà, c'était tout de suite un projet international. Alors, Matteo Ferrari me dit « Ah, mais vous n'êtes pas les seuls à en avoir, puisque en 1919, il y a eu une vente aux enchères de 29 parchemins de ce type par Sotheby's, et ça a été acheté par ce monsieur à belle moustache, le révérend Percy Barnard, révérend et libraire à Tunbridge Wells, qui les a achetés pour 18 livres en 1919, c'était une belle somme, qui les a revendus ensuite aux amis du Fitzwilliam Museum of Cambridge, où ils se trouvent toujours, donc ce petit musée de Cambridge. J'ai contacté ce musée, Et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer... Alors déjà, sur Internet, on a accès à la description de leur parchemin, de leur vêtement de parchemin. Mais par contre, il n'y a pas les photos. Donc je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos? Alors, vous connaissez les Anglais. Tout smileil. Donc, raison de 10 livres par photo, ils voulaient bien me les envoyer. Alors du coup, j'ai acheté 3 droits de 3 photos, parce que quand même, c'est déjà 30 livres, même si ce n'est pas les livres de 1919. Et ils m'ont envoyé ceci. Donc celui-là, vous reconnaissez? C'est le 1490, 14XC. C'est un mélange de chiffres romains et de chiffres arabes, entre guillemets. Et puis les autres, par contre, je ne les connaissais pas encore. Voilà, donc oui, effectivement, c'est... et puis Comitatis Perrosier. Donc c'était bien la même collection. Donc d'où ils sortent ces 29, on ne sait pas encore. Qui les possédait, il faudrait demander à Sotheby's, mais Sotheby's ne vous dira jamais à qui ils ont acheté. Donc, de toute façon, je pense que le mystère va perdurer un certain temps. Mais en tout cas, voilà, il y a une collection sœur de notre collection. Il y a aussi un antiquaire parisien, Calvautaire, qui en a encore à vendre. Si ça vous intéresse, vous pouvez les acheter à 300 € pièce avec l'encadrement. Et questionné, soumis à une torture légère, une question. Il nous a avoué, pardon, je vais un peu vite, il nous a avoué qu'il en avait eu entre les mains 300, qu'il a dispersé au gré des ventes, qui se sont retrouvés chez peut-être X centaines de propriétaires. Donc voilà, ça c'est. Et puis évidemment, il ne va pas nous dire à qui il les a vendus, donc c'est dispersé dans la nature. Donc il lui en reste 6 à vendre actuellement, à 300 €. Il y en a aussi qu'on a trouvé en vente sur eBay en 2019, un bel ensemble de 7 parchemins dans un état pour la somme de 5 300 €, qui ensuite ont été retirés de la vente parce qu'il y a eu un petit problème avec les carabiniers italiens qui ont. Bon. Une plainte à la gendarmerie, etc. C'était un peu. Donc le vendeur les a remisés et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Donc sur ce, je demande à ma belle-mère, je la questionne un petit peu, et elle me dit donc ça vient de la famille de mon beau-père. Et je lui dis, mais il y en a peut-être d'autres. Alors elle téléphone au cousin, qui dit, ah ben oui, les parchemins, j'en ai un plein carton. Un plein carton de parchemins. Elle va apporter les moi. Alors il arrive à Poitiers avec son carton. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais il y en a tellement dedans que j'ai mis 6 jours à les compter. Parce que en les sortant doucement, etc. Et puis dedans, j'ai tout de suite trouvé une licorne. Donc là, je suivais Tintin sur sa voix. Et j'en ai compté 686. 14 plus 686, 700 parchemins. Cambridge, 29, ils sont contents. Ouais, 700, ça y est. Donc 700 parchemins, alors dans certains un peu abîmés, certains un peu mangés par les souris, certains ayant eu des traces d'humidité, mais quand même des belles choses. Et là, on peut commencer à se demander, mais c'est quoi tout ce truc-là? Alors, on va appeler ça la collection Albertini, je vous expliquerai pourquoi après. Hein. Donc, on a vite compris que c'était des couvertures des archives judiciaires de la ville de Pérouse. Voilà. En italien, Perugia, et en latin, Perusio ou Perusia. Le genre est tantôt masculin, tantôt féminin. Donc, ça se trouve où, Pérouse? C'est en Ombrie, c'est-à-dire au nord de Rome, 150 km à peu près au nord de Rome, pas très loin de Sienne, près du lac Trasimene, dans les Stato della Chiesa, c'est-à-dire les états de l'Église. Tout ça, c'est une carte du XIVe siècle.
On a l'ancienne.
Voilà, donc vous pouvez noter quelques noms de villes qu'on retrouvera dans les parchemins, comme Siena, Firenze, Lucca, Pisa, Bologne. Donc on va rencontrer, il y a beaucoup ces villes lors de... je ne vais pas tout vous décrire, mais je vous redirai après ceci. Donc pour l'instant, juste où est située Pérouse. Et puis, le cousin, il a des frères et sœurs. Et donc il y a eu des partages successifs. Et puis il y a la régénération du dessus, il y a aussi d'autres partages. Donc en fouillant, au bout de 2 ans, voire plus, même, les dernières découvertes de 2025 en tête, j'en ai compté 1798. En partant de 14 au début. Hein. C'est-à-dire une collection incroyable qui s'étale de 1282 à 1493 sur plus de 200 ans. Et je vous ai montré quelques armoiries. Ces armoiries, elles appartiennent à ce qu'on appelle des podestas, des capitaines du peuple, des juges et des syndics. Donc ce sont des officiers étrangers à la ville de Pérouse, qui viennent, qui sont recrutés par la ville de Pérouse, qui viennent travailler 6 mois à Pérouse, avec toute leur équipe, on verra. Et puis, donc sur les actes, de, lors de leur... Alors 6 mois de travaux, tous leurs actes donc, sont glissés dans des pochettes en parchemin, et ces pochettes portent leurs armoiries. Du coup, on se retrouve avec un nombre d'armoiries incroyable. 200 ans, vous imaginez, tous les 6 mois, ça change. Et en plus, il y a 4 types d'officiers. Alors, on va voir qu'ils ne sont pas répartis de façon équitable. Il y a plus de podestas et capitaines du peuple que de juges et syndics. Le support... Ces 2 photos, si jamais vous n'étiez pas persuadé, vous montrent que c'est bien du parchemin, puisque ceux-là, ils portent encore les traces, enfin, les poils des animaux. On pourrait, à partir des poils, identifier l'animal. À gauche, je trouve que ça ressemble un peu à de la chèvre, peut-être. À droite, ça me fait plus penser à du porc, mais bon. Alors, on a fait une étude, quand même, sur un petit lot de parchemin, sur 49 parchemins. Donc ça, ça a été fait en Belgique. Par Matteo Ferrari, qui s'est entouré d'une équipe de physiciens. Et donc, ils ont fait des analyses en spectrométrie visible, en analyse protéomique, c'est-à-dire qu'ils prennent un petit bout de parchemin en surface et ils analysent toutes les protéines, donc le protéome, et à partir de ça, on arrive à trouver l'animal d'où provient le parchemin. Et on a eu une surprise, parce que moi je pensais que c'était assez mélangé, porc, et chèvre. Et en fait, sur ces 49 parchemins, il a trouvé que du mouton et de l'agneau. Alors ça ne veut pas dire que dans toute la collection, il n'y a que du mouton et de l'agneau, mais sur ce lot, c'était uniforme, c'était agneau, mouton, uniquement. Il en a profité pour regarder un petit peu aussi les pigments. Donc là, voilà ce qu'il a fait à Namur. Alors ce support, à l'époque, c'était un support assez coûteux. Hein, donc, quand ça se déchirait, on le reprisait. Donc vous avez ici des reprises, très certainement, datant du XIVe siècle, avec un fil qui tient bien, hein, depuis le XIVe siècle. On le réutilisait aussi. Donc de temps en temps, on trouve des parchemins de ce type, où on voit des écritures ici qui ont été effacées, grattées. Et puis on a réutilisé le parchemin, et on a réécrit et remis une armoirie. Alors en dessous, peut-être qu'on pourra trouver une autre armoirie, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien les écritures qui ont été grattées. Donc un bel exemple de réutilisation, ce parchemin il date à peu près 1360, à 10 ans près. Et quand on le déplie, on tombe là-dessus, et quand on soulève délicatement, parce que c'est assez rigide, on tombe sur un texte de 1230. Donc celui-là, il a été réutilisé 130 ans après, à 10 ans près. Et donc, on n'a pas osé le déplier, parce que c'était vraiment très très collé, et donc, mais sinon on aurait pu lire le texte de 1230, qui est un des plus anciens de la collection. Alors parfois on a du mal à lire des écritures, donc ça va, ça devient déjà un peu plus difficile. Alors il y a une technique qui s'appelle la lampe de Wood, c'est simplement en fait une lampe ultraviolet. J'ai acheté une lampe pour détecter les faux billets en fait, sur internet, et voilà ce que ça donne. Et là, ce que vous n'arriviez pas à lire à l'œil nu, voilà, Anno Domini, Milo, et puis 280... il manque un, il doit y avoir un L ici, 1293. Donc là, on arrive à lire la date. Et regardez ici, franchement, pour dire qu'il y a quelque chose. Eh bien, s'il y a quelque chose, 1290. Ça, c'est le miracle de la lampe de Wood. C'est magique, mais non, c'est chimique. Donc, je vais vous donner une petite explication. Je vais tenter de faire une petite explication. Donc, si j'ai trouvé un très bel article qui s'appelle L'élucidation de la structure des encres ferrogalliques. Donc, au Moyen-Âge, on utilisait des encres fabriquées à partir d'acide gallique et de fer. Alors l'acide gallique, c'est quoi? On prend de la gale de chêne, par exemple, qu'on broie, qu'on fait chauffer, ça libère une molécule qui s'appelle l'acide gallique, et l'acide gallique, ça complexe le fer. Donc ici, vous avez un atome de fer, et les oxygènes de la molécule d'acide gallique viennent entourer l'atome de fer, selon ce qu'on appelle un complexe octaédrique. Et donc ça, c'est le constituant en fait de l'encre, c'est le constituant qui est responsable de la couleur de l'encre. Quand on éclaire ça à l'ultraviolet, eh bien, ces molécules d'acide gallique vont absorber les ultraviolets, et ce qui fait que l'encre va ressortir en sombre, parce qu'elle absorbe la lumière. Donc ça tient en fait de la structure moléculaire des composés de l'encre. Alors voilà à quoi ressemble un manuscrit type de la collection Humbertine. Donc vous avez en haut le type de livre, donc un Liber Prosecutionum, livre de poursuite. En dessous, ah ça c'est marrant ça, on retrouve Prosecutionum ici. Mais alors pourquoi il le recrée deux fois? Alors mon hypothèse c'est qu'en fait ils avaient commencé par écrire ça, l'artiste est arrivé, on l'a dit il faut pas une armoire, hop il a pas son armoire, il faut faire attention à un texte, bah oui il faut bien la peindre quelque part. Alors du coup le notaire ensuite a réécrit Liber Prosecutionum ici, c'est pour ça que c'est écrit deux fois. Donc deux fois le type de registre. Ensuite vous avez un nom ici qui est le nom du notaire, notari, c'est marqué ici. Hein. Donc Vanis Gupti Demonte Alcino, peut-être. Donc. Ici, vous avez le quartier, Porta Solis. Donc, dans la ville de Pérouse, vous avez le quartier Saint-Pierre, le quartier de la Porte Saint-Pierre, le quartier de la Porte du Soleil, etc. De la Porte Sainte-Suzanne. Ah, PS Suzanne. Ah, c'est la Porte Sainte-Suzanne. Donc, en fait, sur un parchemin, quand vous avez juste Porta Solis, vous vous dites, ah, ça pourrait venir de la ville de Pérouse, parce que à Pérouse, il y a un quartier Porta Solis. Ensuite, vous avez le nom de l'officier, avec le type d'officier. Donc, pot, c'est une abréviation pour potestas, donc le podesta, et son nom, Bretuldus, Dominus Bretuldus, Domini Guglielmi, de Monte Politiano. Donc, son nom, le nom de son père, et le nom de la ville d'où il était originaire, et puis la date, évidemment, à laquelle il a exercé sa fonction d'officier podesta de la ville de Pérouse. Avec son armoirie. Alors très certainement que lorsque en 1326 le registre a été écrit, il devait avoir, je pense, cette écriture et l'armoirie. Et ça a été rajouté après, très certainement par un archiviste qui, peut-être 10-15 ans après, a décidé de mettre un peu d'ordre. Et puis alors, cette armoirie, c'est qui déjà su. Et hop, il a remis les. Et donc on trouve cette écriture identique sur un certain nombre de parchemins, très certainement la même main, le même archiviste. Et puis ça, c'est quoi? C'est le griffon de Pérouse, donc c'est l'animal totem, on va dire, de la ville de Pérouse, en italien, et grifo bianco, in campo rosso, donc le griffon d'argent dans un champ de gueule, traduit en français, et puis bon. Je ne vais peut-être pas tout vous traduire. Je vais laisser un peu l'italien. Voilà, donc c'est, on va dire que c'est une augmentation de l'armoirie. Ce n'est pas l'armoirie de l'officier.
Qui tient l'épée de la justice.
Voilà, qui on poignard la spada de la justice. Voilà, donc un parchemin type, ça ressemble à ça. Alors c'est très souvent découpé. Je vous expliquerai après pourquoi. Et puis ici, ce numéro, très certainement, c'est aussi un archiviste qui s'est amusé à classer et qui a mis des numéros qui n'ont aucune logique pour nous, pour l'instant. On n'a pas encore trop trouvé. Souvent, on a sur les parchemins des petits dessins rigolos. Alors, ces petits dessins rigolos, ça porte un nom. Ça s'appelle des signum tabellionis. Donc, le signe du tabellion, du notaire, qui a écrit le registre. Et alors parfois on a juste le signum tabellionis, et ici on a le signum et le nom du notaire en entier. Donc on verra que ces signums peuvent être intéressants. Alors on a des choses assez amusantes sur certains parchemins, on a des dessins, donc ça, le voilà recto avec l'armoirie, qui est une famille connue de Pise, avec ici le type de livre, le Liber Extraordinariorum. Et puis au verso, alors est-ce que c'est le notaire qui a fait ça, peut-être ? Parce que je ne pense pas que ce soit le peintre qui était payé pour mettre l'armoirie, c'est plutôt le notaire qui s'est amusé. Alors, vous voyez ici, Signum Tabellionis, donc peut-être, je n'ai pas réussi à le dater de façon sûre, mais si on arrive à retrouver ce Signum Tabellionis, on pourra peut-être le dater juste avec ça, en fait. Parce que ça, c'est pas des choses utilisables pour dater. Et donc, des dessins assez rigolos. Donc, je vous ai fait un petit florilège des dessins. Là, c'est la série Armure, Homme d'armes. Voilà. Une belle esquisse d'armoirie avec un home. Celui-là est assez joli aussi. Donc, le soldat avec sa masse d'armes. Et une armoirie sur le bouclier qu'on arrive à identifier. C'est la famille Rinaldini de Sienne. Ensuite, j'ai fait une série Animaux fantastiques. Donc, celui-là est assez amusant, le petit bonhomme qui surmonte une espèce de dragon. Celui-là est très beau. Alors, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à ça. Là. Alors je me suis dit que l'auteur n'avait pas lu La Grande Traversée, donc j'ai cherché une référence plus académique, j'ai trouvé. Et effectivement, quand on regarde la tapisserie de la Reine Mathilde, on retrouve ce genre un petit peu de choses. Donc peut-être que ceci évoque la proue des dracars normands. C'est vrai que les Normands sont arrivés en Sicile dans les années 11e, dans le 11e siècle. Donc voilà, c'est une hypothèse. Ensuite, je vous propose une série Amour courtois et figures féminines. Celle-ci est très jolie, avec la princesse qui attend son prince charmant, sans doute. Et la dernière est assez étonnante, qui remonte une certaine modernité de la pensée au Moyen-Âge. Alors, on a donc en général l'armoirie, un petit texte en latin qui présente le type de livre avec le nom du notaire. Et en général, ensuite, on a des textes juridiques. Alors, on a des petits bouts de texte, parce que les textes, en fait, on verra qu'ils ne sont pas sur du parchemin. Et en général, ils ont été perdus. Et puis là, au verso, il y a quelque chose d'amusant. Je vous fais un agrandissement. Et donc, ça, vous pourrez peut-être le lire. Donc, c'est du latin. Et c'est un passage ultra célèbre qui propose une interprétation, une identification de ce texte. Tout le monde connaît ça. In principio erat verbum, et verbum erat apud deum, et deus erat verbum. Hoc erat in principio apud deum, etc. Donc c'est le début de l'évangile selon saint Jean. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a aussi des textes religieux parfois. Donc les notaires, quand ils s'ennuyaient, bah, recopiaient une partie de l'évangile. Vous connaîtrez certainement par cœur. Ou parfois un poème, parfois on a un bout de Notre Père, ou un bout du Credo. Voilà, pour que des textes religieux. On a d'autres textes. Alors ça, je vous ai fait un agrandissement. Et ça, c'est pas du latin. C'est de l'italien. C'est de l'italien du XIVe siècle. Donc là, je vous ai mis une transcription en dessous. Alors, par exemple, ici, un povertà. Donc ça, c'est de l'ancien italien, puisque maintenant, en italien moderne, ça fait povertà. Et donc ça, Matteo me l'a identifié, parce que moi, je ne connais pas très bien la littérature italienne. Hein. Donc c'est un poète qui s'appelle Cecco d'Ascoli, et qui a très bien fini sur le bûcher à Florence en 1327. Et donc, il est sur ce parchemin qui date d'environ 1420. Voilà. Donc, ça devait être pour fêter le centenaire de son décès, peut-être. Voilà. Donc, on n'a pas que des textes en latin. On a aussi quelques textes en langue vernaculaire. Alors, j'ai voulu savoir un petit peu plus. En fait, on était là en début 2019, enfin, mi-2019, mai-juin 2019. J'ai dit à mon épouse, il faut qu'on aille voir à Pérouse, les archives de Pérouse. Parce qu'on a ça, d'accord, mais eux, ils ont quoi? Donc on a fait le voyage en octobre 2019 et on est parti voir ce qu'ils avaient. Voilà ce que j'ai pu photographier sur place, un document de 1291. Donc là-bas, ils ne s'embêtent pas trop, les archivistes, ils écrivent dessus. Moi, je les respectais un peu plus. Et nous, on a ça. Voilà, donc en quoi notre collection a été bien conservée par rapport à ce qui subsiste dans les collections de Pérouse. Je vous donne un autre exemple, hein, je pourrais en faire plein, mais celui-là de 1361, alors ça je pense que par contre c'est une écriture assez ancienne. Et nous on a ça. Donc là je me suis dit, effectivement, là ce qu'on a c'est quand même incroyable, c'est plus beau que ce qui reste dans les archives. L'État, les Archivios di Stato du Perugia. Voilà, donc finalement, ça a été très très bien conservé dans les greniers familiaux, où ils étaient dans une vieille malle pendant très longtemps, avant d'être dispersés. Voilà, mais alors pourquoi ces archives qui étaient à Pérouse se sont trouvées dans la famille de mon épouse? Donc ça nous a pris 2 ans pour élucider le mystère. Alors, je vous passe les détails, parce que ça a pris trop de temps et que les choses sont un peu confidentielles aussi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en 1853, Pérouse est alors dans les états de l'Église, et il décide de faire un peu de ménage, de désherbage. Pof, allez, tous les trucs du Moyen-Âge, là, on va vendre ça, ça nous fera un peu de sous. Notamment un libraire à Rome, d'origine allemande. Ça, on en est sûr. On ne sait pas combien ça a été vendu, on pourra peut-être retrouver l'acte de vente. Ils ont vendu alors les parchemins et les feuilles de papier qui étaient dedans. Les feuilles de papier, visiblement, ont disparu. Ils ont dû trouver que ça ne valait pas grand-chose et que c'est parti au pilon. Et les parchemins, il y avait les armoiries, donc ça intéressait les gens, donc ça a subsisté. Ensuite, on sait qu'il en a vendu une partie en 1881 à un marchand juif de Paris, on ne sait pas trop combien. Ensuite, il y a eu la naissance de l'Italie, et donc les Italiens se sont rendus compte de la bévue. Ils ont dit « c'est pas possible, il faut récupérer ces archives qui appartiennent au patrimoine national ». Donc ils ont essayé de négocier avec lui, mais bon, il était un peu retort. Il menaçait de vendre au Vatican, il essayait de faire monter les prix, il disait pas trop ce qu'il avait. Au bout de 2 ans, les fonctionnaires italiens en ont eu assez, ont décidé « bon, bah, tant pis, on laisse tomber ». Et donc c'est parti sur le marché des antiquités. Et c'est là où François Viaud, professeur de médecine à Bordeaux et originaire de Dordogne, les achète, peut-être à Rome, parce que je sais qu'il a été à Rome à un congrès de médecine, peut-être à Bordeaux, mais ça m'étonnerait un peu plus. On n'a pas réussi à trouver la trace. Bon. En tout cas, ça y est, ils sont dans la famille. Voilà, passionné de Moyen-Âge, ce monsieur, il achète un château en ruine, il le refait, il le reconstruit. Il achète ses parchemins, ils sont dans une vieille malle. Il les met au grenier en disant je m'en occuperai à la retraite. Malheureusement, en 1918, pof, la grippe espagnole. Et visiblement, je pense qu'il n'a pas eu le temps de s'occuper de ses parchemins. Donc ils sont partis, ils sont restés au grenier. Et là, je pense que ses héritiers, qui étaient ses neveux, qui n'avaient pas d'enfants, n'ont pas trop su ce que c'était, ne savaient pas d'où ça venait. Et donc c'est resté quasiment un petit peu moins de 100 ans dans le grenier. Voilà. Donc les héritiers, il y avait 12 propriétaires, donc se sont trouvés avec ces 1800 parchemins à peu près. Alors pourquoi ça s'appelle l'Albertini maintenant? Parce que ça devrait s'appeler la collection Bio en fait. C'est lui qui les a achetés, c'est par lui qui sont arrivés dans la famille. Il se trouve que le professeur Bio avait épousé une dame, Albertini, fille de Luis Eugenio Albertini, qui était un... Alors, il était diplomate péruvien, d'ascendance par son père, italienne. Donc, lors de mes recherches, je me suis dit, ah, bah, ça pourrait être lui, le maillon par lequel c'est arrivé dans la famille. Donc, je me suis dit, bon, on pourrait appeler ça la collection Albertini, en plus, c'est des parchemins italiens. Et puis, forcément, ça ne peut pas être lui, puisqu'il est mort en 1880, et qu'à ce moment-là, l'Italie essaie de racheter les parchemins. Bon, on a gardé le nom Albertini, parce que... pour des raisons de marketing que je vous expliquerai après, ça, c'était bien. Et voilà, les Italiens sont très contents que ça s'appelle comme ça. On a gardé Albertini. Mais ça devrait s'appeler la collection Vue. Bon. Donc, on se retrouve avec ces 1800 parchemins. Heureusement, ils ne sont pas tombés sur le nez d'un coup. J'en ai eu d'abord 14, puis 700. Puis après, ils sont arrivés par petits paquets, 150, 200. Le tout est allé sur 3 ans à peu près. Et puis les derniers, vraiment, en 2025. Et ce qui m'a laissé le temps, en plus avec le Covid, plein de temps libre, le temps des étudiants. Alors, avec Mathéo et puis Laurent Ablot qui nous supervisait, on a dit qu'il faut les numériser d'abord pour les sauvegarder déjà. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils vont être vendus, est-ce qu'ils vont être dispersés. Donc on a un truc énorme, incroyable, il faut absolument garder l'unité. Donc on va numériser. On va essayer de les transcrire, donc ça je vais me faire aider par Matteo Ferrari, parce que moi, une paléographie du XIVe siècle, j'y connaissais rien. Je m'étais arrêté au XVIIe siècle, recherche généalogique familiale, des choses comme ça, mais on va blasonner, donc ça c'est. J'avais les deux spécialistes français sous la main, alors pas de problème. On va essayer de les dater, de les identifier, et puis de faire un classement, proposer un classement chronologique. Donc il se trouve qu'à Poitiers, on est bien lotis avec le CESCM, donc j'ai eu un contact avec Madame Ingrand. Avec le directeur du CESM à l'époque qui était Martin Aurel, qui est décédé depuis, et qui m'ont orienté vers la MSHS, donc qui est un service Université de Poitiers, la Maison des sciences humaines et sociales, qui ont du matériel de pro. Parce que moi, sur mon petit scanner, j'arrivais pas parce que les documents étaient un peu trop gros. En plus, c'était un peu long. Donc, ils m'ont donné ça, un poste de travail avec ce magnifique scanner. Où j'ai pu travailler et numériser toute la collection. Donc toute la collection, ça veut dire, 3782 photos, soit une masse de données de 232 gigaoctets au formatif. Donc c'est vraiment un truc de qualité assez incroyable. Le travail de numérisation, par exemple, sur ce manuscrit, on numérise recto, on met des petites règles pour avoir une idée des dimensions. Donc vous voyez les dimensions du coup, ça fait 23 en largeur et un peu plus que 30, 32, ouais, 31, 32. Donc c'est un gros A4, un petit peu plus qu'A4. Voilà. Donc recto, verso, il n'y a rien écrit, c'est pas grave. Par principe, on fait recto, verso. Et puis celui-là, en fait, on peut l'ouvrir. Donc on l'ouvre. C'est pas toujours facile à déplier. On le déplie. Alors, vous trouvez qu'un truc qui fait 65 cm de long, alors, pour refermer la vitre, il ne faut pas l'abîmer, c'est pas toujours facile. Bon, voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose d'écrit, c'est un petit truc, on regardera. Et il faut imaginer ce qu'il y avait dedans. Donc en fait, c'est une couverture, c'est un dossier. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier? Alors, sur certains, il y a des choses comme ça décrites. Alors, je vous donne la transcription. Donc ceci est le livre des témoins, Condito Sincartis Bambassinis, fabriqué, on va dire, en contenant des cartes de papier. Donc, cartis bambassinis, ça veut dire que ça contient du papier. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a le nombre de feuilles de papier, 48 cartes, donc 30 sont écrites, comme chez le notaire. On précise le nombre de feuilles vierges et de feuilles écrites. Donc, alors, ça, cette inscription, elle n'est pas sur ce dossier, elle est sur un autre, hein, mais on peut imaginer du coup. Voilà, ce qu'il y avait dedans, par exemple, ça. Donc ça, je l'ai photographié à Pérouse. Et à Pérouse, ils ont des dossiers où il reste des feuilles de papier. Donc ça, c'est du papier du XIVe siècle. Et il est parfaitement lisible. Super état de conservation, comme quoi l'encre ferro-gallique, hein, ça tient bien. Hein. Et c'est du papier chiffon, sans doute. Ça, je ne suis pas spécialiste, mais... Voilà, donc nous, on a perdu les feuilles de papier... les actes, il nous reste la couverture. Et donc notre collection, c'est une collection de couvertures. Une petite transcription. Je vous laisse lire. Sola fides, sufficit. C'est ce que je me disais en numérisant. Sola fides, sufficit. La foi seule suffit pour les non-latinistes. Et puis je vous ai remis le verso pour montrer le système de fermeture médiévale. Et le petit lien qui permet de, hop, avec cette espèce de petit osselet de parchemin, de fermer le dossier, et puis voilà, c'est pas terminé. On n'a rien inventé, non ? Voilà, donc ce dossier du... alors celui-là, c'est du 15e siècle. Alors parfois on était... comment dire, on a rencontré quelques problèmes. Celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de le déplier pour arriver à numériser tout l'intérieur? Alors là, j'ai sollicité, enfin c'est pas moi, mais avec Mathéo et Laurent Ablot, on a sollicité un spécialiste, qui s'appelle Philippe Jacquet, qui nous a déplié le parchemin. Voilà, selon une technique qui lui appartient. Et voilà, là on se retrouve avec un joli truc, hein, parce que ça fait quand même plus de 60 sur 50. Et alors là, pour le numériser, il y a un autre scanner encore plus grand, hein, la MSHS. Donc voilà, donc, numérisé, ça y est. Hop, et parfaitement lisible. Bon, je ne vais pas encore tout déchiffrer, mais par exemple, on peut lire la date ici. 1338, indexionné 6e. Je vous dirai ce que c'est un peu après. Ici, vous avez le nom du pape, donc Bénédicte. Attendez, que je ne dis pas de bêtises. C'est Bénédicti, oui, c'est Bénédicte, papé, 12e. Bénédicte 12. Donc Benoît 12. La transcription, donc là en fait j'ai eu le maître Matteo Ferrari qui m'a initié à cette transcription. Alors après, c'est assez facile à transcrire parce qu'en fait c'est tout dans la même chose. C'est les textes juridiques, c'est toujours le même, la même trame. Donc finalement on rentre assez vite. Sauf que quand vous avez un texte énorme, là ça devient un petit peu dur de tout transcrire, mais finalement on a réussi à transcrire l'essentiel des documents. Évolution de la graphie. Voilà un document, on se demande pourquoi il a cette forme-là. Mais dites-vous que mon beau-frère, à l'époque, avait 10 ans. Et quand on lui donne un joli truc, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des ciseaux, puis il dessine autour de la moine, il découpe autour de la moine. Donc voilà, l'explication pourquoi ils sont découpés. On les a donnés aux gamins de la famille pour s'amuser. Ils montaient au grenier, découpaient les parchemins de l'oncle Bio. Et voilà quand il m'a massacré le texte le plus ancien de la collection. Qui date de 1226, année de la mort de Saint François. Il s'appelle François, mon beau frère. Voilà pourquoi ils ont cette forme-là. Et donc là c'est amusant parce que vous voyez ici, Frédérico II, c'est Frédéric II de Hohenstaufen, donc à l'époque l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc c'est le texte le plus ancien que j'ai pu trouver, 1226. Avec, d'ailleurs, c'est un parchemin réutilisé, hein, parce que celui-là, c'est plutôt 1360. Alors, on revient un petit peu au début de la collection. Là, on est, c'est facile à lire, 1292. Nonagento Secondo. 1292. Donc là, une armoirie, parfois en oreille blanc, avec un joli signum tabellionis ici. C'est assez facile à lire. Là, c'est début 14e, on est en 1330 à peu près, oui. Là aussi, c'est pas trop dur. Celui-là, on l'a déjà vu, c'est 1361, avec ces jolies lettres décorées, que certains appellent les lettres tourneurs, ou lettres lombardes. Bon, après, je suis pas spécialiste des lettres. Mais... Enfin, je suis spécialiste de rien, d'ailleurs. Mais... Alors ça, par contre, pour lire ça... Il faut s'accrocher. C'est bourré d'abréviations, tous les petits tildes, les machins. Enfin, ça, j'ai laissé tomber. Donc ça, c'est 1375 à peu près, mais pour autant, c'est pas plus facile. Là, on arrive à 1423, 1424. Attention, c'est pas un 9, c'est un 4. Bon, ça se voit bien, parce que ça, c'est un 3. Et donc là, c'est assez facile à lire. Là, on est en 1454, indexionné Segunda, etc. Avec des lettres qui sont décorées. Et celui-là, il est encore plus décoré. Avec, ils se sont amusés à mettre des petites décorations sur chaque lettre. Ce qui est compliqué, c'est un petit peu la lecture, mais bon, sinon c'est assez facile à lire. Vous avez en même temps un petit aperçu de la diversité des armoiries. Et puis un petit dernier, de 1464, je ne me trompe pas. 1464-1465. Voilà. Donc là, voilà un petit aperçu entre le XIIIe siècle et le XVe siècle. On passe un peu à la partie héraldique. Donc là, j'y connaissais rien, à part d'azur, d'argent, des choses comme ça qu'on entend, mais... Donc là, si vous initiez un petit peu à l'héraldique, vous avez Emmanuel de Bousse, ça c'est le spécialiste de l'héraldique du Moyen-Âge, ça c'est un ouvrage plus général. Et puis, alors ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est deux ouvrages de répertoire d'héraldique italienne, écrits par Michel Popov, qui est une sommité dans ce domaine. Et puis, beaucoup d'armorio en ligne, et c'est là où Internet est extraordinaire pour ce travail, parce que moi, je ne connaissais absolument aucune armoirie italienne, et donc j'ai découvert ça, notamment grâce à ces armoiries. Ah, c'est des armorio, pardon, en ligne. Je vais vous montrer un petit peu la diversité de formes des écus. Donc là, on est en 1290, avec un écu à pointe arrondie. Là, on est en 1320, à peu près, avec ce qu'on a appelé un écu triangulaire. Ici, un écu en amande, ou en toupie, mais plutôt en amande, on appelle ça. Avec ici, ça représente une roue de moulin. Parfois, on a des écus ronds, on a quelques exemples comme ça. Donc ça, c'est 13e, 14e. Là, on arrive au 15e siècle avec ce que j'ai appelé une ogive renversée. Mais on retrouve encore des formes en amande. Et puis après, on a des formes typiques du 15e siècle, celle-ci, qu'on appelle une forme en chanfrein. Donc chanfrein, ça vous dit quelque chose. Peut-être c'est la partie du cheval qui est entre les yeux et les naseaux, là, quand on aime bien caresser. Hein. Et donc c'est aussi le nom de la pièce d'armure qui protégeait la tête du cheval. Et donc en fait, ça rappelle cette pièce d'armure. Les Italiens appellent ça la testa di cavallo, qui est encore plus imagée. Et puis une dernière forme qu'on appelle en targe. Donc la targe, c'est cette échancrure là, qui permettait de passer la lance pour les tournois notamment, mais aussi sur les champs de bataille. Hein. Voilà. Donc ça, c'est il y en a très peu d'exemplaires comme ça. Donc ça, c'est fin 15e, et c'est réservé à certains officiers qui montrent leur statut de chevalier. En fait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a certaines armoiries, un truc en haut, là, et peut-être que ça vous a inspiré, et que peut-être que vous avez reconnu les armes d'Anjou. Donc on appelle ça le chef d'Anjou. Alors, je vais juste vous expliquer pourquoi on trouve ça dans les armoiries italiennes, parce qu'au début, ça m'a quand même un peu surpris. Et donc, vous pourrez aller lire l'article de Alessandro Savorelli, qui explique pourquoi les fleurs de lys, ils sont partout. Eh bien, c'est Charles d'Anjou. Charles d'Anjou, c'est le frère du roi Louis IX, Saint-Louis, qui a été couronné roi de Sicile en 1266 à Rome. Le voilà ici, arrivant à Rome. Donc vous le reconnaissez, ces armoiries, ici. Donc vous savez que le roi de France porte d'azur fleur de lys et d'or. Eh bien lui, il porte d'azur fleur de lys et d'or aux lambelles de gueule, ici de trois pendants. Donc on appelle ça une brisure. Il est frère du roi, il n'est pas le roi de France, donc il n'a pas le droit aux mêmes armes. Donc il a cette brisure en plus. Et c'est cette armoirie qu'on va rencontrer ensuite en Italie. Donc rapidement, il arrive en 1265, appelé par le pape. Alors, le pape, en 1261, c'est un Français, Urbain IV, qui s'appelle Jacques de Pantaléon, qui devient pape, et il négocie avec Saint-Louis et son frère, parce qu'en fait, l'empereur l'embête un peu, donc il appelle les Français au secours, et il lui dit, venez, je vous offre le royaume de Sicile, c'est-à-dire toute cette partie-là, à condition que vous ayez gagné votre couronne sur les champs de bataille. Donc il arrive en 1265, entre les deux, le pape est mort, Urbain IV, il est mort à Pérouse, en 1264, à Pérouse. Mais il a été remplacé par Clément IV, qui est aussi un Français, qui est l'ancien conseiller du roi Saint-Louis. Donc ça va, il continue à bien s'entendre. Donc les Français arrivent, ils le sacrent, roi de Sicile, donc j'ai dit en 1265, au début de 1266, et puis ensuite il va conquérir son royaume sur les champs de bataille. Il va battre le fils de Frédéric II, Manfred, à la bataille de Benevento. Et puis ensuite il y a le petit-fils de Frédéric II qui s'appelle Corradino, qui n'a que 15 ou 16 ans à l'époque. Et donc il est aussi battu à la bataille de Tagliacozzo. Corradino s'échappe. Charles d'Anjou lui court après, le rattrape et le fait décapiter à Naples, ce qui n'est pas très chevaleresque. Mais bon. Et donc il a gagné son royaume de Sicile. Alors ça ne lui va pas porter malheur, chance pardon, d'être aussi peu, d'être aussi vindicatif, puisqu'en 1282, les Français aux vêpres siciliennes se font éjecter de Sicile. Bon, et il leur reste le royaume de Naples, donc avec les Angevins, qui s'installent durablement dans cette partie-là. Et donc les familles italiennes alliées au pape, et donc au roi de France, prennent le chef d'Anjou et l'ajoutent à leurs armes en chef, donc au-dessus de leurs armes. Voilà l'origine du chef d'Anjou. Alors, maintenant, il faut dater et identifier les officiers. Donc, quelle source utiliser? Alors, une première source qu'on a utilisée, c'est la salle des notaires de Pérouse. Donc, si vous allez à Pérouse, vous rentrerez ici dans le palais communal et vous tomberez dans cette salle qui est la salle des notaires, qui date de la fin du XIIIe et qui a été restaurée au XIXe siècle et dont les murs sont constellés d'armoiries. Et puis alors, il y a des explications en plus. Donc, par exemple, il y a un article écrit par Maurice Siogor qui décrit toutes les armoiries de cette salle. Donc, on a commencé par ça, par utiliser cet article, parce qu'au début, je n'avais pas encore les photos de la salle. Et par exemple, grâce à cette photo, on a pu identifier une armoirie de notre collection sur laquelle il n'y avait rien qui permettait de dater. Donc, par similitude, on peut proposer que cette armoirie appartienne à cet officier qui s'appelle Renerius de Nobilibus Deripa Fracta de Pisis, en latin, et puis en dessous en italien, qui a été capitaine à Pérouse en 1386. Alors, avec le style, ça paraît cohérent. On peut se dire, ah oui, mais il y a un petit truc qui ne va pas là. Ici, en chœur, on a un nom de trois coupeaux, sommet d'un château d'argent. Est-ce que c'est pas ça? Alors, sauf que sur une autre source, qui est la Raccolta Enrico Ciramelli Papiani, nous avons bien en cœur ce château qui est tantôt de sable en noir, tantôt d'argent. Et donc, ça correspond bien là, donc à Scaccato d'Argento e di Rosso, tu as un échiqueté d'argent et de gueule, et portant en cœur, chargé d'un château de noir ou argent.
De sable ou d'argent.
Voilà, de sable ou d'argent, merci. Je m'y perds. Alors, inversement, la collection permettrait d'enrichir les connaissances sur la salle. Par exemple, cette armoirie, elle est dans notre collection, et on l'a formellement identifiée comme appartenant à ce Podestà de 1341. Et donc, si on va dans la salle des notaires, une photo que j'ai prise, on a ça. Alors, en fait, on n'arrive pas à lire la date. Alors, en plus, elle est tout à fait en haut de la salle, à un endroit qui a été exposé aux intempéries. Visiblement, il y a eu des infiltrations d'eau. Et donc, en fait, on arrive à deviner quelques lettres. Alors, Frédis Domini. Alors, ouais, Frédis Domini. Mignato. Mignano. Donc, avec ça et ça, l'armoire qui ressemble, on peut penser que c'est effectivement celui-là. Et donc, en fait, on pourra proposer aux Italiens, la prochaine fois qu'ils vont restaurer la salle, mais en fait, le texte, on pourrait peut-être l'améliorer parce qu'on la connaît, cette armoirie, en fait.
C'est trois merlettes.
C'est trois oiseaux. Alors, avec le nom de Piquena, ça pourrait plutôt être des pivers. Bon. Bon. Oui. Stylisé. Un autre exemple. Alors là, la photo n'est pas de bonne qualité. Je suis désolé parce qu'on n'a pas le droit de s'avancer jusqu'au fond de la salle. Donc ça, c'est moi qui l'ai prise. En fait, l'armoirie, elle devrait ressembler à ça. Donc peut-être que lors de la restauration du 19e siècle, c'était trop abîmé. Ils n'avaient pas la couleur bleue en bas. Et donc en fait, ils n'avaient pas les bonnes initiales parce que c'est FK normalement et pas FF. Donc là aussi, on pourra leur proposer peut-être de restaurer cette armoirie correctement.
Oui.
Peut-être que celle du 19e siècle a été mal restaurée, en fait. Bon, enfin, cela dit, ça ne nous suffisait pas parce qu'il n'y a pas toutes les armoiries. Moi, j'en ai sur 200 ans et j'en ai à peu près 500. Et il n'y en a pas 500 dans la salle. Donc, rapidement, on a été bloqué et on a trouvé, grâce à Internet, j'ai trouvé une référence que j'ai envoyée à Matteo. Il me dit, ah oui, ça doit être bien ça. Et il se trouve que ce livre était à la bibliothèque d'histoire de Poitiers. Donc j'ai foncé m'inscrire à la BU d'histoire et j'ai emprunté ce livre qui n'avait jamais été emprunté. Bah, faut dire que c'est un peu spécifique, un peu, oui. Voilà. Podestà et Capitani del Popolo e loro ufficiali Perugia, de 1195 à 400, c'est exactement ce qu'il fallait, puisque c'est parfaitement les bornes chronologiques que je cherchais. Donc en fait, c'est le livre qu'il me fallait. Et il était à Poitiers. Oui, j'ai du bol, quand même. Donc Vittorio Giorgetti, je ne sais rien de lui quasiment, sauf que c'était un instituteur passionné d'histoire et qui a écrit plein de trucs, dont ce livre en 1995. Qui a été édité donc par, par le centre médiéval de Spoleto. Et il a fait un travail de moine. Donc non seulement il a été cherché dans les sources, donc dans les archives de Pérouse, le nom de tous les podestas, capitaines de Pérouse, alors pas les juges et pas les syndics, mais bon. Mais il a recensé tous les gens qui ont travaillé pour lui. Par exemple les collateralis, les iudex, les miles et les notarius. Donc il a été cherché dans toutes les sources, tous les noms de toutes les personnes qui ont travaillé avec ce monsieur. Parce que quand un officier était recruté à Pérouse pour 6 mois, il n'arrivait pas tout seul, il arrivait avec une troupe d'environ 60 personnes, avec ses notaires, ses juges, ses donzelli, ses servants, et puis ses... comment on appelle ça, les sbirris, les soldats. Donc il arrivait avec toute sa troupe. Et ensuite, après ces 6 mois, tout le monde repartait. Et donc, ces gens-là n'ont travaillé que 6 mois à Pérouse. Donc, quand vous trouvez leur nom, ça y est, vous savez exactement à quelle période vous êtes. Donc, juste avec un nom de notaire, je peux vous dater à 6 mois près le document, grâce au travail de M. Giorgetti. Béni soit Giorgetti. Et puis, en plus, il a fait des photos dans les archives. Et il a photographié plein d'armoiries. Alors, il s'est arrêté en 1330, à peu près. Mais tout ce qui est 1330-282, du coup, j'ai pu l'identifier en ouvrant le livre. Ce qui m'aurait pris des heures et des heures et des heures. Enfin, des années peut-être, je ne sais pas. Et puis en plus, il a fait un index. Et dans cet index, il a recensé tout. Alors, on avait déjà l'informatique en 1993. Donc, tous les Bonaventura, tous les, qu'ils soient Miles ou Notaire Index, il les a mis ensemble. Donc moi, quand je vois Bonaventura, j'ouvre mon index et je sais que je suis... forcément, dans ces lignes-là, donc ça me restreint vachement ma recherche. Je vais vous montrer ça sur un exemple. Et puis, un petit peu plus tard, grâce à un site de généalogie, j'ai découvert un manuscrit qui est à Pérouse et qui est accessible en ligne. Et donc, c'est un manuscrit du XVIIe siècle. Et là, ils ont recensé à l'époque toutes les armoiries des podestas qui étaient dans les archives de Pérouse. Donc, alors c'est parfois un peu stylisé, on va voir, mais ça m'a permis de valider certaines hypothèses et puis de découvrir, enfin de dater certains manuscrits. Donc là aussi, un document incroyable que j'ai trouvé en tapant le nom d'une famille, en tombant sur un site de généalogie avec un monsieur qui disait « Ah, mais il y a un document à Pérouse ». Donc je lui ai écrit, il m'a répondu, il m'a donné le lien, et j'ai ouvert le lien, et je suis tombé là-dessus, enfin, grâce à un site de généalogie, d'entraide généalogique. Comme quoi... Là, par exemple, vous reconnaissez les trois pivers. Pivers, je ne sais pas. En tout cas, vous avez le nom du podesta, Dominus Laurentius Fredis de Dominus Ferii, de Picaria, qui doit être en fait Picania, avec son armoire, et le nom en dessous du capitaine qui a travaillé en même temps que lui, mais dont nous n'avons pas la langue. Donc ça, débrouillez-vous autrement. Celui-là, je l'ai daté grâce aux Anglais, parce que sur leur site, il y a une description des parchemins. Donc ils décrivaient d'azur au lion d'or, armée et l'ambassade de Gueule, à la bordure de Gueule. Donc je me suis dit, bon, ça doit être ce qu'ils indiquent, c'est-à-dire 1364. Alors je les ai contactés, j'en ai dit, est-ce que vous pourriez me confirmer? Ils m'ont dit, ah, celui-là, il n'a pas été numérisé, donc 35 livres pour le photographe, plus 10 livres d'envoi, donc ça sera 45. Je dis, bon, au revoir. J'ai attendu d'être à Pérouse, et j'ai été chercher dans le 1364, et je l'ai trouvé. Donc j'ai aussi daté par comparaison avec ce qu'il y a dans les archives de Pérouse. Ce qui n'est pas si simple que ça, parce que les archives, vous avez droit à un nombre de dossiers limité par jour, c'est-à-dire 6 dossiers par jour. Alors qu'on y va une semaine, on est vite bloqué, quoi. C'est très frustrant, mais bon. Voilà, donc Archives de Pérouse, Jude Cap, Busta 119, boîte 119. Ça, c'est la référence. Alors, je vais vous montrer comment j'ai daté quelques parchemins grâce à Giorgetti. Alors, celui-là, c'est amusant parce que on a une armoirie, ok, et on a une inscription. Liber, accusationum, et puis en dessous, à côté, le nom d'un notaire. Vous arrivez à le déchiffrer là-haut? I-O-H-I-N-I, avec un tilde. Ah, ça a une abréviation, c'est Ioannini. Ioannini, Petit Jean. Donc le notaire, c'est Petit Jean. Débrouillez-vous avec ça. Alors, comment on fait? On ouvre le Giorgetti et on regarde les Ioanninus. Ouf, il y en a beaucoup. Ben oui, Petit Jean, il y en a 16. Bon, mais déjà, ça restreint. Mais ça suffit pas. Heureusement, il y a un verso sur le parchemin. Et là, il y a une inscription qui a attiré mon attention, c'est ça. Die, le jour, Jovis, jeudi, 30 juillet. Jeudi 30 juillet. Ah, mais jeudi 30 juillet, ça restera vachement. Parce que ça veut dire que c'est 1299, ou 1310, ou 1332, c'est à peu près tous les 11 ans à peu près. Donc ça, vous avez des sites sur Internet qui sont très bien faits, vous tapez jeudi 30 juillet, ils vous disent toutes les années possibles correspondantes. Là encore, Internet, c'est incroyable. C'est... Parce que sinon, s'il fallait calculer ça, vous imaginez. Et donc, parmi les Ioanninus, il faut chercher une date compatible. Donc parmi ces 16, il n'y en a plus que 3. 1310, 1299 et 1332. Je vais tout de suite éliminer 1310, puisque les 1310, je les connaissais déjà. 1332, je les connaissais déjà. Donc il ne me restait plus qu'un. Normalement, c'était ça, 1299. Donc, hypothèse, c'est un podestat de 1299. Et une fois qu'on a ça, bah, on peut chercher les armoiries d'une famille. Ça, c'est facile, c'est relativement facile. Surtout quand on a Matteo Ferrari sous la main qui vous dit « Ah, mais oui, dans l'église de Brescia, qui est à la chiesa San Francesco, Saint-François de Brescia, il y a un tombeau de cette famille. » Et l'armoirie est gravée. Donc on appelle ça faire de l'épigraphie, donc utiliser des inscriptions sur les murs. Et bah, il n'y a plus qu'à superposer, bah oui, c'est bon. C'est un palais d'or et de gueule. Alors évidemment, il n'y a pas les couleurs sur la pierre. Elle y était sans doute initialement. Il y a peut-être parfois des restes, on peut éventuellement deviner peut-être des restes de pigments, mais en tout cas, la forme de l'écu, ça va. Et puis nous, on a en plus le griffon de Pérouse. Et puis par la suite, j'ai eu validation, parce que j'ai retrouvé ce parchemin plus tard dans d'autres séries. Donc voilà, Ioannini, je l'ai traduit. Parfois. Alors, on a aussi une datation possible grâce à la double datation qu'il y a sur les parchemins médiévaux. C'est-à-dire qu'il y a une datation 1299, puis à côté, il y a indictionné quelque chose. Donc le système des indictions, qui sont des périodes fiscales de 15 ans. Et donc sur celui-là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, ici il y a indictionné duodecima, donc 12e indiction. Alors 12e indiction, au début je ne savais pas ce que ça voulait dire, heureusement j'ai eu un petit cours par Robert Favreau sur les indictions, ça m'a bien aidé. Donc, indictionné duodecima, connaissant l'indiction, on peut remonter à l'année, alors plus exactement, à un certain nombre d'années compatibles avec l'indiction 12. Donc, l'indiction 12, alors, donc ça ne correspond pas, l'indiction 12, c'est là, ou c'est là, ou c'est là. Bon, ça fait beaucoup d'hypothèses, beaucoup de choix possibles, parce que ça veut dire que ça peut être 1599, ou 1344, etc. Enfin, ça fait un nombre énorme, hein. Donc ça ne suffit pas. Heureusement, si on regarde bien là-haut, on devine ça. Bon, il faut avoir de bons yeux et puis une lampe de mouton. Et on devine un 2, donc 1200 plutôt, en plus avec un écu à forme arrondie, plutôt fin 13e, 1200 et quelques, et quarto. Ça, j'en étais sûr. Donc 1200 quelque chose, 4. Alors du coup, on élimine la colonne 13, on élimine la colonne 14. Tac. Il me reste la colonne 1200 quelque chose. Et 1200, tout ça. Ah oui, mais si ça se termine par un 4, Là, c'est plus que 3 possibilités. Donc 1224, 1254, 1284. Voilà comment, à partir de cette addiction, je me suis restreint à 3 possibilités. Et rapidement, bah, j'ai trouvé, grâce à des armoiries en ligne, la famille Rangoni da Modena, qui en plus ici a eu une augmentation, donc un coquillage d'argent à ajouter en chef, mais sinon l'armoirie correspondait. Alors parfois il y a des inversions de couleurs, hein, donc, mais sinon c'est la même, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est 1284. Une autre façon d'identifier, de dater, c'est les lettres onomastiques. C'est tout ça, un nom savant pour dire simplement les initiales. Donc celui-là, je n'arrivais pas à trouver une armoirie, mais j'avais l'indication de VP. PSA, c'est Porte Saint-Ange. Donc c'est un quartier de Pérouse, qu'on connaît, ok. La forme en chanfrein, fin 15e. Donc 1480-1500. Donc en ouvrant le George Hockey, j'ai cherché des gens qui avaient pour initiale VP. Et donc ça paraît pas très longtemps. Et j'ai trouvé un truc de 1491, oui, Valerius d'Empinelis, en latin, et puis en dessous en italien. Et là, impossible de trouver une référence qui permettait de confirmer. Donc j'envoie mon hypothèse à Matteo, qui me dit, ah, mais oui, bien sûr, dans l'église Sant'Egidio de Florence, nous avons cette Pietà qui a été commandée par un certain Valerius, on n'arrive pas à lire, Potestas, cuius arma canis bicaudus, dont les armes sont un chien à deux queues. Donc c'est bien Valerius, bon, même si on n'a pas le nom là, on a suffisamment de données sur cette Pietà pour savoir qu'elle a été commandée effectivement par Valerius de Pimpinelis. Donc voilà, avec ce VP, comment on a pu identifier cette armoirie. Une mystérieuse affaire de style. Cette armoirie a été identifiée sans problème, 1357. Et celle-ci, impossible de trouver quelque chose sur le parchemin. Mais oui, mais c'est forcément le même peintre qui l'a écrit, qui l'a dessiné, qui l'a peinte. Enfin, pour moi, c'est vite. J'ai trouvé que c'était évident. Donc, du coup, j'ai restreint tout de suite ma recherche à des années proches de 1357. J'ai pris quelques années près. Et j'ai trouvé effectivement qu'il y a une ligne qui était compatible en 1356. Donc, ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense qu'on devrait pouvoir la valider. Voilà, donc les peintres travaillaient sans doute, enfin visiblement, plus, oui, c'était des peintres locaux et ils travaillaient plusieurs années de suite pour la ville de Pérouse. Donc les peintres, visiblement, n'étaient pas aussi itinérants que les officiers. Alors celui-là nous a donné du fil à retordre pour l'identifier. Déjà pour décrire la Marie, parce que avec Matteo, donc lui qui est plus spécialiste que moi, il a appelé ça d'or au flamboyant de gueule posé en barre. Bon, ça me plaisait bien. Je disais amen, c'est tout ce qu'il disait de toute façon. Et impossible de les trouver dans les armoiries, jusqu'à ce qu'il me dise, ah mais regarde, j'ai trouvé une bicerna, donc dans les archives d'état de Sienne, la bicerna numéro 15, donc il y a une tablette en bois peinte, avec notre armoirie. Alors, presque pareil, mais... Et vous avez le nom, Guido Ciruffaldi, de l'officier correspondant, qui est originaire de Sienne. Donc ça y est, on a pu l'identifier. Alors, c'est lui, ou plutôt son fils, parce qu'en fait, ça, moi, je le date plutôt en 1350-1360, d'après le style, et sachant que lui, il est mort en 1339. Donc c'est plutôt son fils, et après coup, en fait, j'ai eu confirmation, parce que j'ai trouvé le prénom Domenico sur un autre parchemin. Donc on a fini par venir à bout de cette armoirie. Et après coup, finalement, dans Michel Popov, qui est le spécialiste italien, en fait, j'ai trouvé de l'armoirie, mais il lui avait donné un nom complètement différent de celle de Matteo. Et donc on n'arrivait pas à trouver avec juste la description. Donc c'est que les héraldistes ne sont pas tous d'accord entre eux quand il s'agit d'écrire un truc un peu compliqué. Donc, parfois, ça complique. Celle-ci aussi nous a donné beaucoup de fil à retordre. Elle est très belle. Mais à part ça, impossible à identifier la famille. Jusqu'à ce que Matteo tombe là-dessus. C'est les archives de Florence qui ont mis ça en ligne. Et donc ça, c'est un parchemin qui a toute une histoire, puisqu'en 1966, il y a une grosse crue de l'Arno à Florence, qui a noyé les archives de Florence, qui ont été sauvées tant bien que mal, et qui sont encore en cours de restauration, et de temps en temps, ils en sortent une, et celle-ci est sortie, et là, on arrive à lire le prénom et la provenance de l'officier. Et donc, avec ça, dans le Giorgetti, j'ai tout de suite trouvé... est daté celui-là. En fait, c'est le même officier qui a travaillé à Pérouse en 1349-1350 et ensuite qui a été travaillé en 1351-1352, pas très loin, à Florence. Et ça y est, on a pu identifier cette famille qu'on retrouve plusieurs fois. Alors, c'est pas le même, c'est sans doute des parents-enfants ou des oncles, etc., qui ont travaillé à Pérouse. Bon, bah, finalement, au bout de... grosso modo, de 2 ans de travail, on est arrivé à ceci. C'est-à-dire, pour chaque parchemin, vous avez un numéro de cliché. Donc, un parchemin, J001, correspond à 2 photos, recto verso. Alors, ça, c'est une numérotation que j'ai inventée. Comment numéroter, c'est 1798. En fait, ils sont arrivés par lot, avec des propriétaires différents. Donc, c'est tout simplement l'initial du propriétaire, et puis ensuite un nom, un numéro d'ordre, dans la collection du propriétaire J. Voilà, donc après on a gardé cette numérotation parce qu'elle était pratique. Une estimation de la taille du parchemin. Quel type d'officier, podestat, capitaine, juge, syndic. Alors le syndic, en fait, c'est celui c'est une sorte de commissaire aux comptes. Une fois les 6 mois passés, il vient vérifier les comptes, il vient vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie, il donne qui tue, c'est bon, l'officier peut partir avec la bénédiction des magistrats de Pérouse.
On a la même chose dans les associations françaises où le syndic. Et celui qui fait appliquer les statuts.
Voilà. Donc vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui. La date, quand on arrive à le dater, on a réussi à le dater, vous allez voir une grande partie de la collection. L'indiction, alors en fait il y a une petite formule mathématique qui permet de transcrire, de transformer la date en indiction avec une petite formule sous Excel, c'est pas difficile. L'identification, alors là on s'est posé la question, est-ce qu'on laisse le nom en latin ou est-ce qu'on essaie de le mettre en italien ? En italien, c'est parfois compliqué. Parfois, la transcription est très complexe. On n'arrive pas à retrouver parce que, en fait, la famille a disparu et il n'y a pas de nom moderne correspondant. Donc, on a mis en latin, en général. Et quand on y arrive, on met la transcription en italien. Voilà. Mais par défaut, c'est toujours en latin. Le nom du notaire, qui parfois suffit à dater le parchemin. La stema en italien, donc c'est l'armoirie. On a mis en français. Et puis Mathéo est en train de les traduire en italien. Et la transcription, donc, des textes en latin. Et ce travail, il faut le faire pour chaque parchemin, c'est-à-dire 1798 parchemins, c'est-à-dire un fichier Excel de 3800 lignes à peu près. Voilà. Il est quasiment terminé, ce travail. On a daté combien de parchemins ? Donc, sur les 1798... on en a daté 92%, 1660. Et puis là, je vous ai fait une petite répartition. Donc c'est essentiellement une collection du XIVe siècle. On en a peu du XVe, mais par contre, ils sont très beaux et très intéressants. Donc je vais vous en montrer quelques-uns par la suite. Alors, en fait, on a moins d'armoiries que de parchemins, parce que certains officiers, en fait, sont représentés sur plusieurs parchemins. Il y en a un, je crois, qu'on doit retrouver 20 fois. On a en fait presque tous les registres qui ont été écrits durant son mandat. Et donc, sur 556 armoiries différentes, on en a attribué 461. Là encore, grosse majorité au 14e. Voilà le résultat de l'étude à l'heure actuelle. Donc, le travail continue pour essayer d'identifier la petite centaine qui nous reste. Inconnus. Alors c'est sans doute plutôt des juges et des syndics, et ils sont moins connus, il y a moins de données sur eux, ils sont pas dans le Giorgetti, et donc c'est plus difficile à trouver, c'est des familles peu connues, donc on ne les retrouve pas dans les armoriaux, voilà pourquoi ils sont difficiles à identifier. Pour vous donner une petite idée, voilà, Giorgetti a recensé 22 capitaines, on a dans notre collection les 22 armoiries. Il a recensé 19 podestats, il nous manque un podestat. Dans les archives de Pérouse, parce que ça, c'est pas fait par Giorgetti, mais dans les archives de Pérouse, j'ai trouvé 7 juges, sur cette période, et nous, dans notre collection, on en a 12. Et il y en a 3 dans les archives de Pérouse, et nous, on en a 5 syndics. Donc, on est plus riche, la collection Albertini est plus riche que ce qui reste aux archives de Pérouse. Ce dont j'avais eu l'intuition quand je suis allé à Pérouse, effectivement. Que faire de cette collection ? Un archiviste français a dit c'est un trésor national, évidemment italien, un trésor national italien. Donc l'idée c'était essayer de tout faire pour la sauvegarder son unité. Et en même temps, les cousins, la plupart des cousins, m'ont dit bah, dis donc, ça vaut une fortune ce truc. Bon. Donc que faire ? On va la vendre. On va la vendre aux enchères. Vente aux enchères. Comment ? Il y a 12 propriétaires. Bah, par propriétaire, parce qu'on ne peut pas faire des lots qui appartiennent à des propriétaires différents. Donc forcément, ça veut dire couper la collection de petits bouts. Et alors si des enchérisseurs différents achètent des petits bouts, c'est la catastrophe. Ouais. On a pris ce risque. On a vendu ça chez Mirabeau Mercier en 2024. Je les ai déposés à partir de 2019 chez Mirabeau Mercier, et on les a vendus en 2024 entre les deux guerres Covid. Il y a eu des problèmes d'experts, qui s'est dédié, un deuxième qui s'est dédié. On a pris le premier parce que finalement, ça a été très compliqué. C'est très compliqué de vendre quelque chose. Et on a pris la précaution de prévenir les Italiens, évidemment. Et Matteo Ferrari a beaucoup de relations en Italie, et donc il a prévenu évidemment les gens de Pérouse. Et donc, le jour de la vente, voilà ce qui s'est passé. C'est une fondation de Pérouse, la Fondazione Perugia, qui est une fondation privée, parce que les archives de Pérouse n'avaient pas les moyens financiers d'acheter la collection, qui est une fondation privée donc financée par la Caisse d'épargne de Pérouse, qui a acheté la collection et qui a acheté la totalité de la collection, parce que lors de la vente aux enchères, on avait pris la précaution de proposer...
La faculté de réunion.
La faculté de réunion, merci. Et donc, ça veut dire qu'à la fin des enchères, une fois qu'on a vendu les lots, quelqu'un peut se lever et dire j'achète le tout, en faisant la somme des enchères partielles. On fait la somme des enchères partielles et on remet en vente, et quelqu'un ensuite peut dire ah ben, j'achète le tout pour toi, etc. Et donc, la Fondazione Perugia avait missionné un antiquaire milanais qui était dans la salle et qui s'est levé à ce moment-là. Il a dit j'achète le tout. Et personne n'a un surenchère libre qui... Voilà. Et donc, la collezione Albertini, ce nom était bien choisi parce que les Italiens étaient très contents d'avoir la collezione Albertini qui revenait à la maison. Donc finalement, j'avais bien choisi le nom. Et donc, ça y est, elle est repartie à Pérouse en juillet 2024. Et ils ont commencé à la restaurer. Donc vous pourrez aller voir sur YouTube, vous tapez... Restauro delle Pergamene, la collection Albertini, et vous aurez quelques images que je vous ai sorties de cette vidéo. Donc, il dépoussière, il passe à une solution hydroalcoolique, je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est peut-être des restes de Covid qui leur restent. Bon, enfin, il est pas comme ça, bon, moi je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Et ensuite, il les humidifie. Et méthode, on va dire, artisanale, et ils les mettent sous une planche de bois et une brique pour les remettre un peu...
Pour éviter les plis, pour éviter
les plis, ben oui. Donc voilà, c'est de la entre, peau. Entre deux buvards.
C'est de la peau.
Voilà, c'est de la peau. Ils ont fait une exposition à Pérouse en 2025-2026. Alors c'est une exposition... mélange de parchemin et de création contemporaine. C'est un peu particulier, mais bon, du moment qu'il nous montre le parchemin, moi je suis content. Voilà, qu'il manque, ça reste pas dans les placards. Il y a une présentation officielle à Rome, aux Archives nationales à Rome, le 30 juin 2025, vous voyez, c'est encore tout frais, durant laquelle... voilà, ils ont présenté quelques parchemins, et c'est l'occasion pour moi de vous montrer mon collègue Matteo Ferrari, qui est, sans lui, évidemment, j'aurais pas pu faire tout ce travail, hein, donc c'est sûr que c'est un travail en binôme, mais lui, c'est un peu la tête pensante, et moi, je suis l'ouvrier. Et voilà, donc un patrimoine historique retourne à Pérouse après 170 ans. 170 ans, c'est la vente en 1853. Hein. 172 ans exactement. Voilà, donc ils sont très fiers et très heureux, et nous on est très heureux parce que la collection a gardé son unité, qu'elle va être disponible pour les historiens, puisque Matteo a monté un projet de recherche qui est financé par la France, qui est le projet Armarium. Je suis partenaire du projet d'ailleurs, et donc il met en ligne tous les parchemins avec les transcriptions, les datations qu'on a réalisées. Et donc tout un chacun pourra aller consulter les parchemins de la collection de Pérouse, contrairement à ceux de la collection des Anglais. voilà, donc c'est un travail qui est en train d'être mené par Matteo, essentiellement, et puis des archivistes de Pérouse. Voilà, donc ça ressemblera un petit peu à ça, avec l'image du parchemin, et puis la transcription, la date, le nom de l'officier, tout le travail de transcription, datation qu'on a réalisé. Donc ça, c'est un projet en train d'être mené. Je vais terminer par quelques pépites de la collection, donc notamment du XVe siècle. Alors, j'aime beaucoup celle-ci, de 1451, si je ne me trompe pas, oui, c'est un 5. Donc, je vous ai fait un agrandissement. Parce que là, on a l'armoirie, et en plus, on a un petit soldat qui porte son écu, et puis sa hasse, et puis, en plus, il y a la devise de la famille dans un phylactère. Enfin, c'est très joli, avec les petites bottes rouges. Enfin, ça a été peint en 1451. C'est quand même incroyable. Non ? Ubi bonum, ibi patria. Où je me sens bien, là est ma patrie. Et cette armoirie, au début, elle m'a laissé songeur. Je me demandais ce que c'était. Bon, j'ai trouvé après, mais quand on voit celle en pierre, donc que j'ai photographié à Cortone, et là on voit mieux. Ah oui, ce sont des massacres de cerfs. Donc trois massacres de cerfs sur un champ de gueule. Donc la famille Soderini de Florence. Voilà. Je vais vous en montrer quelques autres du 15e, parce qu'elles sont vraiment très belles. Celle-ci est magnifique, je trouve, parce qu'il y a tout un travail de... Enfin, en fait, c'est quoi de la décoration, on va dire. L'armoirie, c'est ça. C'est un bandé d'or et de verre, et ailleurs, comme la pantoufle de verre de Cendrillon. Et puis, ça fait aussi partie de l'armoirie. Hein, donc c'est un chef de gueule à la croix d'argent. Ça doit représenter une ville italienne, sans doute. Et puis ensuite, tout le reste, c'est de la mise en scène, on va dire. Avec ces petits anges, voilà, du 15e siècle. Je trouve que c'est une des plus belles de la collection. C'est une véritable œuvre d'art. Et maintenant, vous connaissez le sexe des anges. On a quelques pépites aussi, c'est dans le sens où elles sont, ce sont des armoiries qui ont disparu d'Italie, en tout cas, dont je ne trouve aucune trace nulle part. Celle-ci, elle est dessinée dans le manuscrit dont je vous ai parlé tout à l'heure du XVIIe siècle, mais voilà la seule chose dont on dispose. Et nous, on a ça, quoi. Donc ce magnifique lion bandé de... Je pense que c'est du sinople, hein, sinople vert. De sinople, de gueule et d'azur. Et il est très, elle est très surprenante, celle-ci. Une autre famille disparue, la famille Lévi d'Atrévi, voilà la seule chose donc, qu'on peut trouver. Donc, ça, c'est un spécialiste visiblement de la ville de Trévi qui a recensé cette ébauche d'armoirie. Et voilà ce que nous avons dans la collection. Donc un écartelé avec donc un arbre, alors on l'identifiait, ça, je m'y risquerais peut-être pas trop, peut-être un citron. Oui, bon. Et des lettres mystérieuses, AVEF. Très certainement l'abréviation de la devise de la famille, mais que j'ai pas réussi à trouver, qui visiblement peut-être aurait été perdue. Alors il y a des familles. Disparu, non identifié. Donc il y en a une là qui m'intrigue beaucoup. Dans la collection, on a ces trois armoiries. Donc tantôt avec le chef d'Anjou, tantôt sans, mais ça, ça fait pas partie de l'armoirie. L'armoirie, donc c'est ça. Donc un chevronné d'or et de gueule, avec un chef de gueule chargé de trois coquillages d'argent. Et cette famille, impossible de l'identifier, sauf que on sait qu'elle est quand même originaire de la ville d'Ascoli, et dans une église d'Ascoli. Nous avons, dans l'église de Saint-Pietre, au Martire, nous avons cette armoire. Donc voilà, on a les prénoms de ces... Ce sont des juges, en fait. Donc voilà l'exemple d'une famille de juges peu connue, disparue, dont on n'arrive pas à trouver le nom. Voilà. Ça, pour l'instant, il garde son mystère. En même temps, heureusement, on va dire. Peut-être. Et puis, il y a quand même celle-ci. La licorne du début. Je ne l'ai pas identifiée non plus. On n'a pas été jusqu'au bout du secret de la licorne. Alors, j'ai une piste, quand même. Il y a la famille Contucci des Montepulciano. Qu'on retrouve sur des bouteilles de vin, parce que c'est des producteurs de vin actuels. Et ça pourrait être elle, mais bon, on n'a pas cette, cette bande de gueule. Bon, donc, ce n'est qu'une hypothèse. D'azur à la licorne, à l'écorce saillante d'or, en français. Voilà, donc je terminerai sur ce mystère de la licorne. Merci de votre attention. Bravo.
Merci beaucoup Thibault pour cette présentation. Une très belle histoire qui se termine de manière heureuse pour les archives italiennes et puis pour la connaissance, parce que derrière le travail avec des experts pluridisciplinaires a permis de révéler un certain nombre de choses. Et après bien des efforts, c'est quelque chose de très satisfaisant pour à la fois pour les chercheurs et puis pour l'histoire en général. J'imagine que vous avez certainement quelques questions. Après toutes ces belles images.
Oui, alors merci, c'est inédit et passionnant. Alors je vais poser une question qui pique un peu. Est-ce que la Fondation a donné son prix?
Quel est le prix de la collection?
Oui.
Alors ça a été acheté aux enchères pour la somme de 305 000 euros, sachant qu'après il leur reste à payer les frais du commissaire-priseur de 28%, donc vous voyez, ça fait dans les 380 000 euros.
Ouais. Et la deuxième question, vous n'avez pas pensé à rajouter le nom du premier personnage, Vio, je crois,
Vio Albertini, oui, ça devait être la collection de Vio Albertini.
C'est-à-dire que je l'ai appelé Albertini, en fait, c'était aussi un peu pour des raisons de confidentialité, c'est-à-dire je ne voulais pas non plus que les héritiers soient embêtés. Voilà, donc Albertini, c'est un nom tellement banal en Italie qu'on ne pouvait pas savoir qui était derrière, quoi. Si je mets Vio, vous tapez François Vio sur Internet, vous avez son CV, et ensuite vous pouvez remonter facilement à la famille. Enfin bon, voilà, donc j'avais gardé ça. Donc je réserve ça aux gens qui viennent à mes conférences, mais voilà, c'est un peu pour la confidentialité pour la famille. C'était un peu le but, et un peu aussi parce que assez rapidement, on a pensé à faire une vente, et donc une vente aux Italiens, et donc Albertini, je croyais que c'était bien.
Accrocheur.
Voilà, c'est l'accrocheur. Et Vio, c'est impossible à prononcer pour un Italien. Violte, enfin bon, Albertini, facile. Donc, oui, un petit peu pour les raisons de marketing, peut-être.
Plusieurs questions. À quoi les textes?
Oui.
Quelle est la ponctuation d'époque?
Ah, il n'y en a pas trop de ponctuation, mais il n'y en a pas trop. Reprenons un exemple. Bah, là-dessus, si vous avez des points qui séparent parfois. Mais sinon, en général, il n'y a pas trop... Alors, on a de la chance qu'il y ait quand même des espaces entre les mots ici. Hein. Mais effectivement, il y a des textes où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de ponctuation, donc c'est à vous de découper. Donc c'est parfois une difficulté de lecture, oui.
En plus, pour la lecture, les mots ne sont pas extrêmement entiers.
Il y a pas mal d'abréviations. Alors, c'est là où c'est intéressant... Attendez, je vais revenir sur l'exemple de l'Évangile selon saint Jean, parce que... C'est là, où est-ce que je l'ai mis? Non, c'était avant. C'était celui-là. Voilà. Tac. Parce que, par exemple, avec celui-là, c'est un texte qui est très célèbre. Donc, vous aurez une Bible en latin, vous avez le texte, et du coup, par comparaison, vous avez des abréviations classiques. C'est vrai que ça, au début, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, un U et un V, c'est pareil. Et
La petite virgule, apostrophe.
En fait, c'est l'abréviation de R. Ça, c'est RI. Voilà. Et donc, une fois qu'on a compris sur un texte connu, après, on peut aller s'attaquer à un texte inconnu et le déchiffrer plus facilement. Donc, ça, c'était un des avantages que j'avais vu trouver pour ce passage de la Bible.
Qu'est-ce qui s'est passé au début du XVe siècle? Entre 1400 et 1000, vous n'avez rien.
Alors, oui, c'est vrai. Début du XVe, il y a un trou. Ouais, ouais. J'ai pas d'explication.
C'est la vie juridique, le statut de la ville qui a changé, peut-être?
Ou alors, c'était des parchemins spécialement beaux qui ont été découpé, vendus.
Découpés, beaucoup plus.
Parce que nous, on n'a pas toute la collection. On sait qu'il y en a qui sont partis à un marchand juif de Paris dans les années 1880. Qu'est-ce qu'il a emporté? On ne sait pas. Ensuite, on pense qu'une des grand-mères, enfin une arrière-grand-mère, j'ai trouvé un petit bout de papier où il y a marqué « Vendu des parchemins pour tant de milliers de francs ». Elle en a vendu une partie. Qui se sont retrouvés, bah, peut-être ceux qui sont sur Internet actuellement. Voilà, donc peut-être que c'était des beaux qui avaient une certaine, qui avaient plus de valeur. Peut-être que c'est cela qui manque. Voilà, mais pourquoi le 15e est si peu représenté, j'ai pas d'explication. Ouais. Alors, j'ai tenté une explication quand même, c'est qu'en fait, le moment où il y en a le plus, c'est lorsque les papes sont en Avignon. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, mais dans grosso modo 1314 ans, pour faire plus simple, c'est le siècle où les papes sont en Avignon, et c'est là où il y en a le plus de parchemins. Y a-t-il un lien? Je ne sais pas. J'ai pensé il y a deux jours, en fait. Regardez les dates.
Et les papes finançaient la justice à Pérouse ou pas, du coup?
Pardon?
Les papes finançaient la justice à Pérouse pour qu'il y ait autant de documents, je ne sais pas.
Qui finançait la justice à Pérouse?
Ah, qui finançait la justice?
C'est les papes.
Ah, ça appartenait, c'était les états de l'Église, ça appartenait aux papes.
Oui.
Ouais.
Mais il le faisait dans toutes les villes. Donc il dépendait de ce...
Oui. Bon, ça... J'ai pas d'explication, c'est assez fluctuations. Ouais.
Et puis c'est qu'un échantillon
de... Alors, c'est un bel échantillon, moi, quand même.
Mais il en manque d'autres. Donc.
Il en manque d'autres.
Après, ce qui est assez surprenant, c'est l'état de conservation. Parce que quand on sait que ce sont aussi des pièces très fragiles, la poussière, l'humidité, les insectes, il y a peut-être eu des destructions, des pertes par, malheureusement, les événements extérieurs.
Possible, oui. Certains cousins m'ont avoué qu'ils en avaient brûlé tellement ils étaient moches.
Oui, c'est ça.
Tellement ils étaient abîmés.
Oui, ils étaient moches.
Merci beaucoup, Thibault, encore. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous donnons rendez-vous pour la réunion de rentrée de la SRAC le mercredi 7 octobre. Avec au menu une conférence de Max Aubrin intitulée « Les colas ou couveaux des chaufferettes au musée de Chauvigny ». Bonne soirée, bonnes vacances.
Merci.